Sud Radio, c'est ça la France.
Bienvenue dans C'est ça la France, votre émission dominicale consacrée au savoir-faire français. Depuis la semaine dernière, on vous propose des émissions spéciales d'1h30 en direct pour mettre en avant l'ingéniosité, la créativité, la générosité de nos entreprises françaises qui sont toutes mobilisées, hein, ça faut le dire. TPE, PME, grands groupes, nos artisans sont sur le pont. Nous irons d'ailleurs rencontrer les savonneries provençales et distilleries françaises. Nous irons également à Albi. Nous avons reçu de nombreux témoignages d'Albi. N'hésitez pas à nous contacter sur le compte Facebook de Sud Radio. À l'antenne, elle est à votre service. On est vraiment là pour relayer toutes ces initiatives un peu partout en France. Nous serons en direct du marché d'Albi avec un maraîcher, un horticulteur. Ils nous expliqueront comment ils font pour écouler leurs marchandises. Ils ont très peu de points de vente aujourd'hui. Comment nos artisans vivent ce confinement, notamment ceux qui ont dû fermer leur activité. On en parlera tout à l'heure. Dans notre France qui innove, vous découvrirez de très très belles idées pour lutter contre ce coronavirus. Des visières imprimées en 3D, des paravirus, des panneaux en plexiglas que vous pouvez voir de plus en plus chez nos pharmaciens, nos caissiers. Que de belles idées pour participer à l'effort de guerre. Mais avant de rejoindre nos savonneries provençales, je vous propose d'aller faire un petit tour dans le Gers, du côté de Condon, pour retrouver Thibaut, notre French Trotter, qui habituellement se balade dans la France entière pour aller à la rencontre des entrepreneurs. Mais là, il est comme nous, confiné chez lui dans le Gers.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors vous êtes confiné, hein, comme tous chez vous, à Condon, dans le Gers. Alors comment ça se passe autour de vous ?
Bah écoutez, ici à Condon, bah les règles de confinement, elles sont plutôt bien respectées, hein. Les habitants ne se déplacent uniquement pour aller travailler ou pour aller acheter des biens de consommation, des biens de première nécessité. Bah d'ailleurs, les commerces se sont organisés. Ils réservent par exemple une plage horaire du matin, l'heure d'ouverture pour le personnel de santé et pour les forces de l'ordre. Bah c'est une initiative qu'il faut saluer. Sinon, je vous parlais la semaine dernière de cette plateforme Solidarité Occitanie Alimentation,
oui,
qui répertorie tous les producteurs, vous vous souvenez? Tous les producteurs
très, très
près
bien.
De chez soi, ouais, qui peuvent livrer à domicile. Eh bien, ils sont de plus en plus nombreux ici autour de Condon à la rejoindre. Il y a des maraîchers, il y a des bouchers, il y a des fromagers, des viticulteurs.
Il y a même des commerces qui ouvrent le matin uniquement pour les personnes âgées.
Bah, c'est ça, par exemple, je vais citer, c'est Intermarché qui régule, qui propose des plages spéciales.
Effectivement, pour permettre à Condon dans le Gers.
Un meilleur accès, voilà, à Condon, ouais.
Alors justement, je sais que vous êtes entouré d'agriculteurs et de producteurs. Quel est le moral de ces agriculteurs et producteurs que vous avez pu rencontrer ?
Bah, ils continuent à produire et à récolter, mais comme vous le disiez tout à l'heure, la hantise, c'est de ne pas écouler les stocks, quoi, cette peur de pas écouler les stocks. Et pourtant, on est en pleine saison des fraises, par exemple. Mais il y a une bonne nouvelle. Par exemple, le marché des producteurs qui se tient tous les dimanches matins à Condon, et donc en ce moment, ce marché a été maintenu avec des règles très très strictes. Par exemple, pas plus de 10 stands. Et surtout, on réduit les contacts minimum, bien sûr. Et sinon, la solidarité, elle continue à s'organiser dans le département. Et j'ai noté plein d'initiatives. Je vais vous parler d'une initiative. Par exemple, c'est celle des producteurs d'Armagnac qui ont fait don d'une partie de leur stock d'alcool pour qu'on puisse fabriquer localement du gel et des solutions alcooliques, hydroalcooliques. Je pense que c'est une belle initiative qu'il faut souligner.
C'est une très bonne initiative. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure avec ces distilleries françaises qui fabriquent du gel ou bien qui font effectivement don de leur alcool. On ira aussi sur le marché d'Albi en direct pour avoir le témoignage d'un maraîcher. On a eu de nombreux témoignages du côté d'Albi, comme je le disais tout à l'heure. Merci Thibaut. On va se retrouver un peu plus tard dans l'émission. Vous allez donner la parole à des intervenants qui sont au cœur de cette crise. Donc, à tout à l'heure Thibaut.
À tout à l'heure Nathalie. Bonne émission.
Allez, tout de suite, direction le sud de la France, les savonneries provençales.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes avec Julie Bousquet-Fabre. Bonjour Julie. Allô, allô, Julie.
Oui, bonjour
Julie,
Nathalie.
Ça fait plaisir de vous entendre.
Oui.
Julie, vous êtes à la tête de la savonnerie Marius Fabre avec votre sœur, hein, une entreprise qui a 119 ans, quatrième génération familiale, donc une belle, belle entreprise familiale. Alors, on nous dit qu'il faut se laver les mains, hein, ça fait partie des gestes barrières, du gel antibactérien quand on est en dehors de la maison et quand on est chez soi, du savon, se laver les mains. Et avec la pénurie de gel, beaucoup de gens se sont rués vers les savons, hein, c'est ça? Ils ont fait leur stock.
Oui, tout à fait. Disons que les consignes gouvernementales ont été très claires. Et dans chaque crise sanitaire, on redécouvre quelque part le rôle du savon, et en particulier du savon de Marseille, qui est un très bon antiseptique, qui est un très bon antibactérien, qui tue tous les microbes, et dans le cas des virus comme le coronavirus, qui a un rôle très efficace puisqu'il détruit le virus, il détruit la membrane lipidique du virus, Et ensuite, ben, le virus part quand vous lavez les mains, part avec l'eau savonneuse et c'est aussi efficace qu'un gel hydroalcoolique.
C'est ça, c'est-à-dire que le virus est protégé par une couche de graisse extérieure et donc la mousse va casser le gras. Et c'est pour ça qu'il faut se frotter les mains 20-30 secondes, hein. C'est bien ça, il faut bien se laver les mains.
Voilà, c'est ça, le savon dissout les graisses. Le savon de Marseille, c'est un vrai savon qui a un fort pouvoir lavant et il a la propriété de dissoudre les graisses. Donc le coronavirus étant entouré d'une membrane lipidique, eh bien le savon va détruire cette membrane lipidique et donc l'inactiver.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'ailleurs la recette du savon de Marseille ? Quels sont les ingrédients principaux ?
Alors le savon de Marseille, c'est quelque part une recette toute simple, mais qu'il faut connaître quand même sur le bout des doigts. Donc moi, je représente ce matin Marius Fabre, bien sûr, mais aussi les 4 savonneries de l'Union des professionnels du savon de Marseille, qui regroupent les savonneries du Fer à Cheval, du Midi, le Sérail et Marius Fabre. Et donc on est tous engagés pour conserver, perpétuer la recette traditionnelle du savon de Marseille, qui est cuit en chaudron, selon un procédé de fabrication bien spécifique, qui comporte 5 étapes et qui prend au moins 5 à 10 jours de cuisson en chaudron. Et donc, vous avez une recette toute simple qui est à base de matières premières végétales, des huiles végétales que l'on va saponifier, que l'on va transformer en savon de Marseille avec de la soude. Et ensuite, on va procéder à des lavages, à des rinçages à l'eau salée avec du sel de Camargue. Et tout ça pendant une semaine à 10 jours pour vraiment avoir une qualité de savon et une cuisson parfaite et obtenir ensuite le savon de Marseille avec toutes ses propriétés physico-chimiques.
Oui, c'est long de fabriquer un savon de Marseille. D'ailleurs, vous le disiez à l'instant, ces chaudrons dans lesquels le savon va stagner, va cuire, hein, c'est ça, va être chauffé plutôt, va être chauffé pendant plusieurs jours. Ces grosses cuves, on ne peut pas les arrêter comme ça. Donc finalement, heureusement que cette activité, elle continue pour vous.
Ben oui, elle continue parce que d'une part, on est tous convaincus et engagés dans notre rôle de santé publique pour fournir la population en savon pour qu'on puisse continuer à se laver les mains, d'autant plus que on a beaucoup d'informations comme quoi, et quand on va dans notre pharmacie de quartier, ben ils sont souvent en ce moment en pénurie de gel hydroalcoolique. Donc du savon et notamment du savon de Marseille puisqu'il est fabriqué en France dans la région marseillaise, on ne sera jamais en pénurie. On continue à fabriquer même si dans certaines de nos savonneries nous sommes en équipe réduite pour protéger la santé de nos salariés et pour être un peu plus dispersés. Mais on continue à fabriquer notre savon cuit dans nos chaudrons pour pouvoir fournir la population en savon de Marseille.
Et vous êtes très bien organisé avec ce collectif de savons marseillais. Vous avez réussi à mener plusieurs actions à grouper pour aider les professionnels de santé. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes de ces actions menées ? Très rapidement d'ailleurs.
Oui, alors très rapidement, il y a eu des actions, bien entendu, chacun selon nos possibilités. Nous avons, par exemple, la savonnerie Le Sérail a offert une tonne de savon aux hôpitaux de Marseille et au SAMU social. La savonnerie Fer à Cheval, plusieurs milliers de savons à toute association, organisation luttant dans la lutte contre la propagation du virus. La savonnerie du Midi, Marius Fabre, auprès d'EHPAD, auprès d'infirmières. Nous avons, par exemple, fourni les infirmières du Pays Salonnais qui avaient les mains très abîmées avec le gel hydroalcoolique et donc elles avaient besoin de crème pour les mains. On a tous donné des savonnettes, du savon de Marseille pour qu'on puisse aider nos soignants qui sont en première ligne, et on voulait vraiment aussi exprimer par là même notre gratitude et notre reconnaissance de la nation, de tout le monde, parce que c'est eux qui sont en première ligne et vraiment on les remercie pour sauver des vies et protéger notre santé à tous.
Vous le rappeliez à l'instant, la matière première, elle est sur le territoire français. C'est aussi pour ça que vous avez pu être aussi réactif et qu'on peut fabriquer du savon. Mais il faut le dire, l'industrie savonnière, elle se bat pour son indication géographique protégée. Le savon de Marseille n'est pas très bien protégé actuellement. Et malheureusement, la majorité des savons qui ont l'appellation savon de Marseille sur les marchés, qu'on retrouve notamment l'été, viennent d'Asie.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est face un peu à une contradiction. Tout le monde reconnaît et redécouvre les vertus du véritable savon de Marseille, qui est fabriqué sur le territoire, qui est fabriqué en France, qui a des propriétés incroyables parce que c'est un produit très particulier. Et en même temps, il est toujours pas reconnu dans son savoir-faire et dans ses spécificités. Mais bon, c'est pas l'objet forcément aujourd'hui d'en parler. L'essentiel, c'est que la population, nos concitoyens, les consignes gouvernementales soient de se laver les mains au savon, au gel hydroalcoolique. Et notamment, le savon de Marseille est très efficace et il joue son rôle de santé publique aujourd'hui dans la crise sanitaire.
Est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire va impacter votre chiffre d'affaires aujourd'hui ? Parce que vous le disiez à l'instant, donc vous devez produire et en même temps les équipes sont réduites.
Oui, alors ça impacte notre chiffre d'affaires, bien sûr. Alors même si on continue, on a la chance par rapport à d'autres entreprises qui ont dû complètement fermer leurs portes et on pense beaucoup à eux. Nous, on a la chance de pouvoir continuer notre activité parce qu'on a un produit qui est demandé. Et en même temps, on a un problème de distribution, c'est-à-dire que nous sommes des petites entreprises, des PME, souvent familiales, et 95% de nos revendeurs ont fermé. Donc, à part pour, par exemple, la Savonnerie du Midi qui produit beaucoup en ce moment parce qu'ils ont une forte demande, ils ont besoin de répondre à la forte demande de la grande distribution. Et heureusement qu'on peut trouver aujourd'hui du véritable savon de Marseille en grande distribution aussi. Mais sinon, nous autres, Fer à Cheval, Le Sérail, Marius Fabre, nos revendeurs ont fermé leurs portes puisque ce sont des détaillants. Donc, à part des pharmacies, à part des magasins bio, des magasins de produits naturels, quelques magasins alimentaires, tous ont fermé leurs portes. Donc, on continue à fabriquer pour fournir une demande, surtout qui passe par la vente en ligne. Heureusement aussi qu'on a la vente en ligne qui marche.
Heureusement qu'il y a le e-commerce.
Voilà. Mais après, malheureusement, on espère pour tout le monde que les détaillants vont pouvoir réouvrir très vite. Et ça voudra dire aussi qu'on aura enrayé la propagation du virus.
Merci beaucoup Julie pour votre témoignage. Achetez du savon, mais du savon français, hein, parce qu'en achetant français, on aide aussi à la reprise. Hein, parce qu'il faut penser à cette reprise de toutes ces entreprises.
Oui, merci la reprise beaucoup. Va être difficile, il faut contribuer et surtout redécouvrir le fabriqué en France. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de le redécouvrir.
Merci beaucoup Julie Bousquet pour votre témoignage. Julie Bousquet Fabre de chez Marius Fabre. Bonne journée et bon courage à toute l'équipe.
Merci Nathalie, merci beaucoup, au revoir.
Au revoir. Alors, les confiseries font des distributions de douceur. Les distilleries françaises, elles, sont mobilisées pour fabriquer du gel. Encore de très, très belles initiatives. On en parle tout de suite dans quelques minutes.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette spéciale C'est ça la France dédiée justement à toutes ces entreprises françaises qui innovent, qui regorgent d'idées créatives pour justement lutter contre ce coronavirus. Alors on assiste à une mobilisation générale des distilleries dans le monde entier, notamment en France, entre celles qui fabriquent le gel et les autres qui offrent l'alcool destiné normalement à fabriquer leur eau de vie. On en parle tout de suite avec Malgali Filu de la Fédération française des spiritueux.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Magali.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans C'est ça la France. Alors ça va faire un peu plus d'une semaine que l'on voit naître un élan de solidarité de la part de nombreuses distilleries qui se mobilisent contre la pénurie en pharmacie et à l'hôpital d'alcool, d'éthanol, qui est la matière première pour tuer ce virus et fabriquer du gel.
Oui, tout à fait. Alors je dirais même que cette mobilisation des distilleries françaises a commencé véritablement dès l'arrêté du 6 mars, puisque vous savez que depuis le 6 mars, les pharmacies ont eu la possibilité de fabriquer des solutions et du gel hydroalcoolique. Et donc, dès le début, nos entreprises se sont fortement mobilisées pour fournir de l'alcool, alors de l'alcool à plus de l'alcool neutre, à plus de 90 degrés, à ces pharmacies et à ces officines au niveau local. Donc, je dirais que le mouvement, il a commencé après le confinement. Alors après, il faut que les choses se mettent en place, bien évidemment. Mais je dirais que c'est dès le début, finalement, de l'épidémie du Covid-19 que nos entreprises ont commencé à se mobiliser. Alors, bien évidemment, dans l'Est, au début, puisque c'est là où la crise a
bien
débuté.
Sûr.
Donc, c'est surtout les distilleries de l'Est qui ont débuté.
Et après, elles ont eu le temps de s'organiser.
Elles ont eu le temps de s'organiser parce qu'elles ont, alors, elles avaient déjà du stock. Donc, elles ont pu fournir du stock à ces officines. Et je dirais que nos entreprises qui sont vraiment sur l'ensemble du territoire français ont eu aussi la possibilité de donner de l'alcool dans des contenants adaptés à des officines, c'est-à-dire par 20 litres, 50 litres ou 100 litres. Et donc c'est ce mouvement qu'on a vu débuter donc tout début mars et qui aujourd'hui se généralise à l'ensemble de la France.
Donc essentiellement des entreprises un peu historiques, c'est ça qui avait un très bon réseau local, du stock.
Exactement, parce que nos entreprises de spiritueux sont des entreprises qui sont implantées sur le territoire français depuis extrêmement longtemps, puisque finalement, qu'est-ce qu'un spiritueux ? C'est la distillation d'une matière première agricole. Et donc, les entreprises de spiritueux françaises sont aussi bien présentes dans l'Est, en Bourgogne, dans le Nord, en Bretagne, dans le Sud-Ouest, en Charente, mais aussi dans les territoires d'outre-mer.
Et je le disais à l'instant, c'est important de le dire ça aussi, donc il y a aussi bien les grands groupes alcooliers que les distillateurs artisanaux.
Exactement, c'est-à-dire qu'effectivement, on a vu de grands groupes comme Pernod Ricard qui ont donc cédé 70 000 litres d'alcool, mais on a aussi des entreprises qui, suivant leurs moyens et leurs possibilités, ont donné ou ont cédé tout ce qu'elles avaient. C'est-à-dire qu'on a même des entreprises, des petits artisans qui ont donné 70 litres d'alcool, c'est ce qu'ils avaient, pour fournir leur pharmacie au niveau local et surtout les pharmacies d'hôpitaux. Et donc, on a vraiment toute cette palette, ça veut dire que ça a été un mouvement généralisé de dire, mais comment je peux aider, moi, en tant qu'entreprise, pour lutter contre le Covid-19, bah finalement, pour faire de la solution hydroalcoolique, il faut 80% d'alcool neutre à 90 degrés. Et ben, je vais voir tout ce que je peux faire pour aider, finalement, déjà en local, les pharmacies d'hôpitaux, les EHPAD. Et donc, c'est vraiment un mouvement très fort qui s'est mis en place.
Mais vous avez raison de le rappeler, hein. Vous avez été très réactif. D'ailleurs, bon, il y a encore une pénurie dans certains endroits, comme le rappelait Julie Fabre à l'instant, mais on retrouve quand même des gels antibactériens dans un peu plus de pharmacies désormais. On sent vraiment que ça a porté ses fruits de très rapidement faire des dons d'alcool ou fabriquer, revirer sa production pour faire du gel antibactérien.
Bah effectivement, parce que la force de nos entreprises, c'est d'être dans les territoires. Donc très rapidement, d'abord, elles ont un réseau local, je crois que c'est important de le dire. Et puis, elles ont pu effectivement essayer de mettre en place un espèce de système pour pallier au manque d'alcool là où il y en avait. Et je pense que justement, c'est finalement cette action au niveau territorial qui a permis un déploiement. Et je voudrais vraiment insister dans notamment les territoires d'outre-mer, en fait, où il y a une très forte mobilisation, si bien à La Réunion, en Martinique, à la Guadeloupe, avec des distilleries qui se sont mis à travailler ensemble pour fournir du gel et ou de l'alcool, ça dépend, dans ces territoires.
Vous avez raison de parler de l'outre-mer. En ce moment, il y a des appels, notamment sur les réseaux sociaux, pour le manque de masques sur les îles. Donc, on a un souci de masques. Donc, pour le gel, effectivement, il y a une belle mobilisation. Maintenant, il y a ces masques qui manquent toujours dans les territoires d'outre-mer. Quel est le rôle de la Fédération française des spiritueux, justement, dans cette organisation pour gérer un petit peu ou peut-être coordonner un petit peu cette action autour de la fabrication de gel hydroalcoolique?
Alors, je dirais qu'on a eu deux rôles principaux. C'est d'un côté d'accompagner nos adhérents sur le plan juridique et puis le plan technique. Mais aussi, on a eu, nous, des gens qui cherchaient de l'alcool et c'était aussi de mettre en relation, finalement, les acteurs territoriaux ensemble. Et donc, on a eu toute cette action de coordination entre, finalement, ceux qui avaient du stock chez eux et ou qui voulaient produire du gel hydroalcoolique et nous qui faisions l'appui juridique et puis à la fois qui mettions en relation les acteurs locaux. Parce que finalement, on a à peu près deux types d'acteurs. On a ceux qui ont effectivement, donné, cédé de l'alcool. Et puis, on a des entreprises qui se sont vraiment mobilisées pour en fabriquer de l'alcool. Et c'est ça, du gel hydroalcoolique.
Du gel.
Voilà, et qui se sont fortement mobilisées. Je citerai par exemple Véranger, Giffard, Cointreau, mais la distillerie Peureux ou la distillerie De Voile. Et à La Réunion, les distilleries Mascarin et Isotier qui avaient le process mis en place pour fabriquer des solutions hydroalcooliques.
Vous avez raison, c'est important de les citer et de saluer leur réactivité. Merci beaucoup Magali Filu. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Fédération française des spiritueux. Merci pour votre témoignage et bonne journée Magali.
Et merci à vous surtout. Au revoir.
Merci beaucoup. Allez, on va faire un tour maintenant du côté d'Aix-en-Provence pour découvrir une confiserie qui fait des dons en ce moment, des dons de calissons.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Laure Pierisnard.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes la directrice générale du Roi René, les fameux calissons d'Aix. Alors, il y a un truc incroyable qu'il faut raconter à nos auditeurs, c'est qu'à l'époque des papes d'Avignon, on distribuait des calissons aux malades pour les soigner de la peste, des calissons bénis, une sorte de confiserie divine. Alors, ça, c'était au XVIIe siècle. Et finalement, là, vous renouez avec cette coutume, avec cette épidémie du coronavirus, qui est une sorte de peste des temps modernes. Alors, le calisson ne guérit pas, mais c'est une manière d'apporter du réconfort.
Oui, ben écoutez, tout à fait. En fait, pour la petite histoire, effectivement, on dit que Aix-en-Provence est sortie d'une grande épidémie de peste qui avait touché toute la ville et décimé de nombreux habitants. À l'époque, il ne restait que quelques personnes, dont l'assesseur Martelly, qui, pour sortir la ville de ce fléau, avait demandé à ce qu'on rende des offices de grâce à la Vierge de la Fête, qui était la de la la Sète, qui était la Vierge protectrice d'Aix. Et on dit qu'à l'issue d'un de ses offices, on a distribué des douceurs, et donc c'était bien évidemment des calissons puisqu'on était à Aix, et que peu de temps après, la ville est sortie de cette épidémie. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai clin d'œil à cette histoire et à cette légende, et nous, en tant que petite entreprise locale, confiserie du roi René, on a souhaité effectivement apporter un peu de réconfort au personnel hospitalier et à tous ceux qui sont aujourd'hui mobilisés en offrant des calissons, mais aussi des nougats et des confiseries. Donc les premières palettes sont parties pour le centre hospitalier d'Aix-en-Provence, puisque c'est de là, nous sommes les plus proches, et peu à peu, allons aussi en envoyer dans toutes les villes où nous sommes présents avec une boutique, donc au CHU d'Angers, à la Timone à Marseille, aux hôpitaux de Salon, Nice, Versailles. L'idée, c'est vraiment, bon, c'est une petite contribution, hein, je crois qu'il faut vraiment faire preuve d'humilité en cette période vis-à-vis de tous ceux qui risquent un peu leur vie chaque jour, mais l'idée c'était de leur amener un peu de réconfort.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer comment cette France entière se mobilise avec ses moyens. Là, vous pouvez offrir des calissons, des petites douceurs, donner un peu de sourire, Pâques approche. Donc voilà, il y a cette volonté de pouvoir être présent, et on l'entendait tout à l'heure dans l'émission de Vincent Ferniaud, Place du Marché, les chocolatiers trouvent aussi des manières de redistribuer un petit peu leur chocolat, et vous, pareil, quoi, avec ces petits confits, avec ces... Il faut rappeler aussi que c'est une période qui est importante pour vous, hein, Pâques, normalement.
Ben oui, tout à fait. Normalement, effectivement, c'est une période qui bat son plein. Les boutiques, en général, reçoivent beaucoup de clients qui sont là pour acheter des douceurs pour en vue des fêtes de Pâques. Nous, nos boutiques sont fermées. La plupart sont fermées depuis le 15 mars. Alors, on assure un service de livraison en ligne, mais c'est vrai que l'idée, c'est quand même aussi de fêter Pâques différemment. Et à ce sujet, je voulais juste faire part d'une petite opération qu'on a mise en place sur notre Instagram. L'idée, c'est de se dire cette année, on sait que Pâques sera vraiment différent, hein, puisque la plupart des familles sont séparées. Donc plutôt que de se dire aujourd'hui, on recentre Pâques sur les proches et la famille, c'est de penser à ses voisins et de faire, nous, on a mis en place un jeu concours.
C'est une belle idée, faire preuve de solidarité. C'est-à-dire qu'on pense pas à soi, mais à son voisin.
L'idée, c'est de se dire, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont mobilisées, on le sait, pour livrer au voisinage à des personnes qui n'ont pas la possibilité de sortir, des personnes fragiles, etc. Et on s'est dit, comment contribuer à cette solidarité? Et donc, on fait gagner sur notre Instagram des lots de confiserie. Alors, l'idée, c'est que justement, ces lots, ils ne soient pas à destination de ceux qui participent au concours, mais que, en fait, ces personnes-là puissent les offrir à leurs voisins, c'est-à-dire en respectant bien sûr tous les gestes nécessaires de sécurité, mais en laissant quelques confiseries sur les paliers pour se dire que ceux qui seront seuls le jour de Pâques, quelque part auront aussi un peu de réconfort.
D'ailleurs, que signifie le mot calisson ? Moi, j'avais entendu dire que ça voulait dire sourire, douceur. Ça veut dire quoi, calisson ?
Alors, effectivement, on dit que calisson, la naissance du calisson aurait lieu lors du mariage du roi René. Donc, c'était au XVe siècle. C'était son second mariage avec Jeanne de Laval. Et Jeanne de Laval était connue comme une personne qui était plutôt très maussade, qui ne souriait jamais. Et donc, pour le jour des noces, le roi René avait demandé à son confiseur de confectionner une douceur pour la reine. Et arrive le jour des noces, le confiseur amène donc ses douceurs à la reine, et là elle se met à sourire, son visage s'illumine, et dans l'assemblée tout le monde s'exclame, puisque c'est extraordinaire, dit calinsoun, qui veut dire ce sont des câlins en provençal, et on dit que du coup calisson vient de câlin, et que certains disent aussi que la forme du calisson serait la forme du sourire de la reine. Donc,
c'est une belle façon de redonner du sourire au personnel soignant, aux personnes seules chez elles. Et c'est une très belle initiative, effectivement, d'offrir ce paquet de calissons que l'on gagnera via les réseaux sociaux. Je tiens aussi à préciser que vous avez offert à l'entreprise tous vos stocks de blouses au CHU d'Aix-en-Provence, étant donné que les ateliers sont à l'arrêt.
Oui, c'est la première chose qu'on a faite, hein, parce qu'effectivement, nous, on avait un petit stock de blouses. On n'avait malheureusement pas de masques à offrir, mais toutes les blouses qu'on avait en stock, on les a acheminées dès la semaine dernière au centre hospitalier d'Aix.
Merci beaucoup, Laure Pierisna, pour votre témoignage. Il faut continuer à être gourmand, hein, même dans cette période dramatique. Et effectivement, ces traditions, ces légendes nous sortent du quotidien. Merci, Pierisse Nard, directrice générale du Roi René. Quelques minutes. Merci à vous. On se quitte quelques minutes quand on se retrouve dans notre immersion, justement à la rencontre de toutes ces entreprises solidaires. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Restez chez vous, prenez soin de vous, c'est important. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans C'est ça la France, consacrée aux entreprises solidaires qui sont toutes mobilisées. Alors, les commerces et les services doivent s'organiser partout en France pour que la vie puisse continuer. On va voir comment ça se passe à Condon grâce à Thibault, notre French Trotter, qui a fait une visite dans l'une des pharmacies de la ville.
Alors, je suis avec Philippe Aufrère, qui est pharmacien titulaire à Condon. Je fais partie de ces personnes qui assurent la vie au quotidien dans cette commune du Gers. J'ai commencé en vous demandant, on est dans cette troisième semaine de confinement. Vous êtes un peu à l'interface de tous les métiers de santé à Condon. Alors, quel est le moral des troupes?
Le moral des troupes est bon. Nous avons à nos frais acheté des masques, acheté du gel, fait monter des plexiglas dans la pharmacie de façon à protéger. Et nous avons après un sens de circulation dans la pharmacie, étudié de façon à empêcher la contamination des malades.
Là, je précise, en condition d'interview, on respecte donc les consignes. Vous portez un masque FFP2, on est à plus d'un mètre de distance.
Oui, tout à fait. On maintient cette distance avec tous les patients et avec notre équipe aussi pour la protéger, protéger les patients, en fait.
Est-ce que vous avez vu une évolution des comportements des personnes qui fréquentent la pharmacie?
On a une légère évolution. Les gens se sont confinés dès le départ, en fait, dès le mardi, il y a 15 jours. Depuis, on a appliqué des règles qui sont strictes au niveau de la pharmacie. Voilà. Après, l'angoisse de toutes les personnes sont l'absence de masque, l'absence de gel hydroalcoolique pour eux. Ce qui est bien normal, parce que même si on nous explique que les masques ne servent à rien, le jour où nous en aurons, on en mettra à tout le monde. Parce qu'en fait, c'est quand même une protection des uns et des autres. Quoi.
Est-ce que les autres services de santé à Condon, je pense en particulier l'EHPAD, est-ce qu'ils ont ce qu'il faut au niveau masque?
Il y a des tensions, mais je pense qu'ils sont quand même équipés. Nous, à la pharmacie, nous servons de relais à tous les professionnels de santé, dans les quotas qui sont très limités, puisqu'il y a 18 masques par médecin. Pour les biologistes, c'est très, très récent qu'il y ait eu des masques, puisqu'en fait, dans l'origine, ils n'étaient pas dans la dotation, et pour nous aussi, puisque durant la première dotation, nous n'étions pas affectés à des masques, alors qu'en fait, je rappellerai juste que la pharmacie reçoit en France en moyenne 2 500 000 personnes par jour, des gens qui sont en angoisse, qui sont en recherche de questionnement. C'est vrai qu'il y a tout le travail remarquable des urgences, mais il ne faut pas oublier non plus que la pharmacie de ville permet de rassurer tous ces gens-là et de leur assurer surtout le traitement habituel dont ils ont besoin.
C'est pour ça que je disais que vous étiez vraiment à l'interface de tous ces services de santé, de toutes ces populations qui craignent aussi pour leur santé.
Je pense que le service de ville est primordial pour ces gens-là qui s'inquiètent, qui s'angoissent, qui ne sont pas forcément malades, mais qui ont peur de l'être. Et je pense que oui, il y a une importance très grande dans ce service qui soit fait par les infirmières, qui sont sans relâche, et les médecins aussi, et la pharmacie qui est ouverte en permanence. La pharmacie étant le point d'accroche le plus rapide pour un patient, puisque c'est toujours ouvert et qu'on peut venir, même si aujourd'hui, on fait rentrer uniquement le nombre de personnes qui peuvent être servies, en fait.
Est-ce que vous observez ces élans de solidarité, ces initiatives pour justement porter les médicaments à domicile?
On a quelques personnes qui viennent chercher les médicaments pour d'autres personnes qui ne peuvent pas se déplacer. On a notamment les services de soins à domicile qui font un travail remarquable, à mon avis, puisqu'en fait, c'est aussi une interface permanente. Et eux manquaient cruellement de matériel, puisqu'ils allaient voir des personnes malades sans aucune protection. Donc ça, il faut le savoir. Voilà. Après, nous, on a de plus en plus de demandes à distance, ce qui n'est pas fréquent dans nos communes à nous, en fait.
Et donc, comment ça se passe pour livrer les médicaments?
Nous, on a soit une application téléphone, soit un site internet. Les patients font leur commande, on prépare, on leur envoie un mail, comme sur tous les systèmes de commande en direct, pour savoir quand c'est prêt. Et soit quelqu'un de leur entourage vient, soit quand c'est en intramuros, nous, on fait le déplacement pour aller les livrer.
D'accord. Donc personne aujourd'hui ne manque de médicaments à cause du confinement.
Non, je pense que personne ne manque de médicaments de nulle part. D'ailleurs, c'est une des bonnes organisations de la pharmacie, j'en profite,
ouais.
Puisqu'en fait, on s'aperçoit que dans tous les villages et dans toutes les petites communes, à moins de 10 km, vous avez une pharmacie. Et aujourd'hui, dans le service de soins, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait remarquer et d'autres professions devraient se mettre à notre diapason.
D'accord. Donc le maillage est bon.
Je pense qu'il est top, oui.
Il est top, voilà. Au moins quelque chose qui fonctionne bien, il faut le souligner.
Oui, ça fait du bien. Le maillage, il est top. Et ça fait bien de se dire voilà, qu'on ne manque pas de médicaments dans toutes ces petites pharmacies. Merci Thibault, on se retrouve tout à l'heure. Alors, je vous propose maintenant de découvrir notre France qui innove.
Sud Radio, c'est ça la France qui innove et la French Tech.
Et les témoignages d'entrepreneurs ingénieux qui ne manquent pas d'idées créatives, ils sont nombreux ces témoignages, ça fait plaisir. Hein. On a de plus en plus d'entrepreneurs dans la France entière qui ont des idées géniales pour protéger nos commerçants, nos professionnels de la santé, comme avec Jean-Pierre Desmeyères que nous avons au téléphone. Bonjour Jean-Pierre.
Bien le bonjour.
Bonjour Jean-Pierre. Vous habitez du côté de La Rochelle, hein, c'est ça?
Absolument, absolument. Notre entreprise
Alors,
est située à Marans.
Amarance, vous êtes à la tête de JCD Agencement. Alors, votre cœur de métier, c'est agencer des magasins et notamment des pharmacies. Hein.
Complètement. Complètement.
Et là, vous avez changé de métier avec le coronavirus.
Oui.
Vous avez une idée,
oui.
Une très très bonne idée. Racontez-nous un petit peu tout ça. Vous fabriquez ce que vous appelez le paravirus.
Précisément. Il est vrai que j'ai stoppé l'entreprise... Le mardi 16 mars, comme beaucoup d'entreprises. Et suite à cela, je me suis demandé ce que je pouvais apporter à ceux qui sont au front. Et c'est vrai que les pharmaciens...
Participer à l'effort de guerre.
Participer à l'effort de guerre. Partant d'un montage qui avait été fait par un de mes partenaires... dans le sud, j'ai imaginé un petit système, le plus simple possible. Et le samedi 21 mars, avec quelques collaborateurs qui étaient tout à fait volontaires, on a fait un premier prototype, et comme il était satisfaisant, eh bien, on en a fait 80 avec la matière qu'on avait en disponible. Et on est allé les porter chez les pharmaciens proches de chez nous.
Expliquez-nous à quoi ressemble ce paravirus, pour ceux qui ne le connaissent pas.
Alors, c'est très simple. C'est un panneau de plexi positionné vertical qui est emprisonné entre trois panneaux, dont deux identiques. C'est facile, il suffit d'aller sur le site jcda.fr et j'y ai mis les plans, puisque... ma volonté immédiate a été de dire que tous les menuisiers de France me copient afin de pouvoir protéger ceux qui sont
vous
au
avez fait un appel, hein. Vous avez fait un appel aux menuisiers pour qu'ils soient les plus nombreux possibles à fabriquer ces fameux paravirus.
Tout
et donc
fait.
Le plan est téléchargeable sur votre site internet pour justement protéger les pharmaciens, les caissiers, enfin, vous en avez livré un peu partout, dans différents types de commerces, j'imagine, ceux qui sont ouverts aujourd'hui.
Alors, en effet, puisque en allant emporter chez les pharmaciens, j'ai bien vu que à la fois les boulangers, les buralistes et les autres magasins de proximité ouverts étaient dans la même situation de dénuement. Et donc, j'ai distribué ces dispositifs avec une particularité de surtout pas en faire un business. Et donc, les paravirus, je les ai distribués sans aucune facturation.
Gracieusement.
Tout à fait.
Gracieusement, effectivement. Vous en avez fabriqué combien en tout jusqu'à présent avec votre équipe?
À ce jour, on en a fabriqué 2000.
Ah oui.
À ce jour, on en a fabriqué 2000. La première semaine, environ 1000. Mais au bout de quelques jours, bien entendu, mon entreprise familiale de 27 personnes ne pouvait pas supporter ça tout seul.
Mais c'est ce que j'allais vous dire, parce que la matière première, c'est votre stock à vous, et donc et vous l'offrez
voilà.
Gracieusement pour fabriquer ces paravirus.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, bon ben les 80 premiers que j'ai fait avec ma matière en stock. Mais mon métier d'agenceur, de fabricant de mobilier fait que j'utilise surtout du bois, oui. Du panneau et accessoirement du plexi. Mais j'ai absolument voulu, quand j'ai constaté que ce modeste paravirus, en le distribuant, je distribuais du bonheur, ce qui est quelque chose de très rare.
Vous rassurez les gens, aujourd'hui. Vous rassurez ces commerçants, effectivement.
Ouais. À la fois les commerçants et leurs clients.
Et leurs clients, vous avez raison.
Et donc,
vous avez tout à fait raison.
Voilà. Au bout de quelques jours, ma fille Iris, qui est confinée à Paris, a eu une idée. Elle m'a dit, écoute papa, crée une cagnotte. Et j'ai d'abord refusé en disant non, je ne veux absolument pas en faire un business. Et après une nuit de réflexion, la nuit portant conseil, je me suis dit, elle a raison. Et donc on a créé effectivement une cagnotte qui est elle aussi accessible sur mon site internet, puisque je me suis dit, en créant une cagnotte, je vais pouvoir racheter de la matière. Chose que j'ai fait, et c'est pour ça que j'ai pu en fabriquer encore 2000. Alors bien entendu, j'ai pris sur ma trésorerie, puisque la cagnotte, pour l'instant, il y a une inertie, c'est normal. Et surtout, j'ai pu encore en racheter, et je vais encore fabriquer des paravirus la semaine prochaine.
Bah, peut-être demander justement à tous ceux qui ont déjà eu cette chance d'avoir ces protections chez eux dans leur commerce, de participer aussi à cette cagnotte en ligne, pour permettre à d'autres aussi d'être protégés.
C'est exactement cela. C'est exactement la démarche qui est en cours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le facteur temps est un facteur essentiel. Donc, le fait de supprimer tout aspect mercantile permet d'aller plus vite.
Et vous avez le sentiment que, du coup, vous êtes entendu par d'autres, vous êtes nombreux maintenant, parce qu'il y a des entreprises qui fabriquent aussi ce type de panneau en plexiglas, hein, mais c'est un business, hein, c'est leur activité principale. Vous souhaiteriez justement qu'il y ait cet élan de solidarité pour permettre notamment aux petites entreprises d'en bénéficier sans pour autant que ça ait un coût conséquent.
Complètement, complètement. Et effectivement, alors je sais que sur le marché... des gens ont profité de cette situation pour créer des profits, ce que je trouve innommable.
C'est-à-dire en vendant des protections hors de prix par rapport
absolument, absolument, ouais. Absolument. J'ai entendu des choses allant jusqu'à 200 euros, voire davantage, alors que bon, moi, mon paravirus, il y a tout au plus une vingtaine d'euros de matière. Donc, c'est voilà quoi.
Mais c'est bien de les dénoncer, c'est bien de le dire. Alors, je rappelle votre site internet, hein, www.jcda.fr, avec ces plans qui sont téléchargeables aussi. Pour et j'espère que de nombreux entrepreneurs vont vous suivre ou vous entendre pour continuer à fabriquer ces panneaux.
Je l'espère. Et puis pour retenir plus facilement mon site internet, eh bien, c'est aussi les initiales de Je crois dans l'avenir. Et moi, j'y crois complètement.
C'est bien ça, j'y crois dans l'avenir, JCDA. Merci et beaucoup voilà. Jean-Pierre Desmeyères, encore un grand bravo. Hein,
vraiment, c'est moi, très merci belle idée. De relayer tout ça, merci beaucoup.
C'est un plaisir, hein. Vous savez, à Sud Radio, voilà, on essaye de mettre en avant les idées de ces entrepreneurs et ces belles initiatives solidaires. Merci, on se quitte quelques minutes et on se retrouve juste après, cette fois-ci du côté du Centre Val-de-Loire, pour une autre très belle initiative innovante. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et pour cette spéciale autour de toutes ces entreprises solidaires, ces entreprises mobilisées contre le coronavirus et cette France qui innove pour trouver justement des manières de contrecarrer ce coronavirus. On l'a vu avec Jean-Pierre Desmeyères et son paranavirus. Et cette fois-ci, je vous propose d'aller en direction du Centre Val-de-Loire pour une autre très très belle initiative innovante. On les appelle les Makers 3D.
Sud Radio, c'est ça la France qui innove et la French Tech.
Et je suis en ligne avec Pierre-François Ducrot. Bonjour Pierre-François.
Bonjour.
Vous êtes l'administrateur du groupe Les Makers du Centre Val-de-Loire, les Makers 3D. Alors ça, c'est une histoire incroyable. Depuis, pareil, une dizaine de jours, on a des groupes de Makers un peu partout en France qui utilisent des imprimantes 3D pour fabriquer des visières. Racontez-nous un peu tout ça.
En fait, c'est parti du fait qu'on a tous un peu ce hobby de fabriquer des objets en plastique imprimé. Et au début du confinement, on a tous, je pense, eu le même genre de réflexion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a eu beaucoup de discussions sur les masques au début, avec beaucoup de débats sur est-ce que c'est efficace ou pas, est-ce que c'est pire ou pas que de pas en mettre et tout ça. Et moi, je suis tombé sur ce projet de visière qui était porté par Anthony Sedicki au départ. Donc les fichiers étaient en ligne, donc on a tous pu imprimer assez vite. Et j'ai trouvé que c'était assez efficace, assez facile à produire et que ça comblait un manque.
Donc, surtout que ce n'est pas votre métier, vous aussi. Hein. Vous êtes réalisateur de formation. C'était juste, comme vous le disiez, un hobby. Et puis à partir de là, hop, vous avez pu.
Oui, c'est vraiment un truc qu'on a commencé à faire chez soi pour s'occuper. Et puis quand on s'est rendu compte que ça répondait vraiment à une demande et qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes et aussi beaucoup de volontaires, il a fallu s'organiser, quoi.
Vous êtes combien aujourd'hui dans le groupe de Makers pour la région Centre ?
Alors, dans le groupe que j'administre, il y a 50 Makers.
Après, et dans nous, la France entière, on a une idée ?
On est à peu près ce chiffre-là par département, je pense. Ouais. C'est assez difficile à évaluer parce que d'abord, il y a beaucoup de groupes qui sont très autonomes et il y a d'autres projets, il y a d'autres types de fichiers qui ont été imprimés par des gens différents. Donc tout le monde ne s'est pas rassemblé. C'est un projet très, très, très autonome, quoi. Donc tout le monde ne s'est pas rassemblé. Donc c'est difficile à chiffrer.
Et alors, qui sont les demandeurs de ces visières ? À qui vous les offrez, ces visières ?
Principalement les hôpitaux, les EHPAD. Nous, on a commencé beaucoup avec des petits cabinets médicaux, cabinets d'infirmiers, d'infirmières. Et on essaye évidemment d'étendre aussi à tous les gens qui sont en contact avec le public, que ce soit les caissiers, les employés de drive, les livreurs.
Ah oui, donc il y a aussi bien, c'est vrai que là, on se rend compte que en termes de demandeurs, la palette est large, hein, entre les personnels de santé, et j'imagine les laboratoires également, et à côté de ça, tous ceux qui sont en contact avec des clients. Ouais.
Puisqu'on nous dit à la fois qu'il faut être complètement confiné, mais qu'il faut continuer à faire tourner l'économie, les gens continuent à être exposés, en fait.
Il y a le déconfinement aussi, donc il y aura des gens exposés, donc il y a cette crainte-là, effectivement, oui.
Sans qu'on leur fournisse les moyens de se protéger. On essaye de pallier à ça un peu.
Alors, chaque centre gère son approvisionnement de matières premières. Comment vous faites là aussi ? Parce qu'il faut pouvoir la financer, cette matière.
Alors, au départ, c'était sur les fonds propres de chaque maker. C'est-à-dire que tout le monde a utilisé ces dernières bobines de PLA, qui est le plastique qu'on utilise, a essayé de faire des petites commandes où ils pouvaient aller acheter localement les dernières bobines qui restaient en stock. Et il y a aussi l'initiative d'Anthony Sedicki qui essaye de fédérer au niveau national et qui a donc mis en place une cagnotte nationale qui permet de récolter de l'argent, argent qui est envoyé directement chez des fournisseurs qui ensuite peuvent nous livrer au niveau régional. Donc on récupère un petit peu de matière comme ça, mais c'est pas non plus monstrueux.
Non, c'est comme ça que vous faites. Alors, mais cette cagnotte, il faut la. Comment vous faites pour l'approvisionner ? C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui spontanément donnent pour pouvoir fabriquer ces visières ?
Il y en a. Je dirais pas qu'il y en a beaucoup parce que sinon on aurait énormément d'argent et énormément de matière, ce qui n'est pas le cas. Il y en a moins que si l'État avait fait son travail et que c'était financé par l'impôt. On a reçu du plastique qu'on redistribue aux makers, donc ça marche.
Alors, il y a une pétition d'ailleurs en ce moment sur les réseaux sociaux, les commerçants, les artisans, les petites entreprises qui subissent donc cette crise du Covid-19 et qui souhaiteraient avoir une exonération totale des charges sociales et fiscales pour toute la durée du confinement.
Alors, ce ne sont pas des charges sociales, ce sont des cotisations. C'est du salaire différé pour les employés, par exemple. Donc, effectivement, que les petites entreprises soient exonérées et qu'on commence à vraiment faire payer leurs impôts à toutes les grosses entreprises qui font de l'évasion fiscale et qui sont directement responsables de la destruction du service public, oui, c'est une bonne idée. Ça nous éviterait, nous, de passer notre temps à faire ça. On a aussi autre chose à faire.
Parce que justement, pour financer cette cagnotte, pour certains, vous avez décidé d'arrêter de, voilà, de devoir payer certaines charges pour pouvoir justement financer cette cagnotte et continuer pour le moment, parce que c'est l'urgence du moment, fabriquer ces visières.
C'est à cette urgence qu'on essaye de répondre. Et c'est scandaleux qu'il y ait cette urgence, en fait. C'est-à-dire qu'on est un des pays les plus économiquement viables, les plus puissants du monde, et on se retrouve à devoir fabriquer chez nous des choses qui sont essentielles à la simple survie des gens. C'est fou.
Est-ce que vous avez une... Oui, non, c'est vrai. Mais on est dans un état d'urgence, quoi, effectivement. Et
mais une urgence qui a été créée et orchestrée. En fait, cette urgence a été créée. L'hôpital a été détruit, les services de santé ont été détruits. On a supprimé des lits dans les hôpitaux systématiquement depuis 20 ans. On a supprimé les moyens de travailler pour les infirmières et les médecins depuis 20 ans. Voilà, c'est là maintenant, on en paye le prix.
Voilà, et on a des entrepreneurs un peu partout comme vous qui essayent de trouver des solutions. On est un peu dans un système D, là, un système des merdes.
Oui, et je suis pas du tout entrepreneur. En fait, entrepreneur, c'est un thème à la mode, mis en place par le gouvernement et leurs amis. Je suis pas entrepreneur. En fait, j'ai eu la capacité de fabriquer des choses. J'ai l'habitude dans mon travail de coordonner des gens. J'ai juste créé un groupe Facebook. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut faire du profit. Nous, on essaye juste de pallier à un manque.
Oui, et votre métier, hein, vous le disiez, c'est réalisateur, hein, c'est ça?
Je travaille sur des tournages, ouais, entre autres réalisateurs.
Ben merci beaucoup Pierre-François Ducrot pour votre témoignage.
Je vous en prie.
Et merci de fabriquer ces visières, on en a besoin. Et effectivement, je le disais à l'instant, avec le déconfinement, on aura encore besoin de se protéger. Et voilà, et on a encore ce problème de masque et on l'aura encore, je pense, pendant encore quelques semaines. Merci beaucoup Pierre-François Ducrot pour votre témoignage.
Merci à vous.
Allez, on continue notre immersion dans cette France qui innove. Cette fois-ci, du côté des montres connectées. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France. La France qui innove et la French Tech.
Avec Vincent Vercamer. Bonjour Vincent.
Bonjour Nathalie.
Alors vous êtes chef de projet innovation santé chez Withings. J'espère que je le prononce bien.
C'est ça.
Une entreprise spécialisée dans la santé connectée. Donc, vous faites habituellement des thermomètres connectés, des balances connectées. Et là, c'était prévu pour ce printemps, le lancement de ces montres connectées qui permettent de mesurer le taux de saturation en oxygène dans le corps. Donc, vous avez un calendrier qui a été un peu bousculé.
Exactement. Donc, on avait un produit qui a été annoncé en janvier et qui ne devait pas sortir avant juin. Et donc aujourd'hui, la dernière montre ScanWatch qui permet la mesure du taux de saturation d'oxygène dans le sang, donc la SpO2, étant donné que c'est un paramètre essentiel à la suivi des patients atteints de Covid-19, on a de nombreuses demandes de la part des médecins, de la part des chercheurs pour justement utiliser cette montre, soit avant hospitalisation, dans le suivi à domicile, ou en sortie d'hospitalisation lorsque les personnes retournent chez elles. Car en fait, la SpO2 peut indiquer le début d'un syndrome respiratoire aigu sévère, donc une des complications majeures liées au Covid-19.
C'est-à-dire que ces montres peuvent aider à suivre l'état de santé du stress respiratoire des patients, maintenus à domicile.
Exactement. Donc avec un contexte de confinement, on comprend tout à fait l'importance d'utiliser des objets connectés chez les patients qui sont maintenus à domicile.
Et du coup, mais ça de quelle permet façon, de... justement? Il permet de suivre l'état de santé de l'état respiratoire des patients.
Et ben du coup on a différentes mesures qui sont possibles avec nos objets. On a la saturation d'oxygène, on a aussi donc des thermomètres connectés, des tensiomètres et aussi un capteur de sommeil qui va à l'origine et permet de détecter les apnées du sommeil. Mais en fait on peut avoir accès à la fréquence respiratoire et donc aujourd'hui on travaille avec différents chercheurs et différents services hospitaliers qui nous ont contactés autour de l'épidémie actuelle, pour justement mieux comprendre comment la fréquence cardiaque, les variations de fréquence cardiaque, les variations de perturbations respiratoires nocturnes peuvent être des signes précurseurs de la maladie.
Oui, ce sont ces signes-là que vous souhaitez identifier avec la montre connectée, ces signes faibles précurseurs de la maladie.
Voilà, exactement. Donc ces signaux faibles vont justement... on voit qu'il y a une très grande variabilité aujourd'hui entre les individus, des individus qui vont très bien et d'autres qui se dégradent assez rapidement. Et donc on est vraiment dans une médecine personnalisée qui va être basée sur des tendances, et donc sur des mesures en continu à la maison, parce qu'on a des difficultés en ce moment avec à accéder aux cabinets médicaux, aux hôpitaux.
Mais alors, si l'appareil détecte une défaillance au niveau de notre stress respiratoire, qu'est-ce qui se passe? L'hôpital est prévenu, alors, SAMU, ou nous on doit se déplacer, comment ça se passe?
Aujourd'hui les objets Wheezing, c'est des objets qui sont faits pour de la mesure, de l'automesure. Donc c'est vraiment chaque personne qui se mesure elle-même, et donc ça va permettre de se rassurer, ça va permettre de rassurer ses proches, éventuellement d'échanger avec son médecin. Et on a la possibilité à des partenaires de se brancher sur nos serveurs, et de, une fois qu'ils ont obtenu l'accord de l'utilisateur, de partager leurs données avec ces plateformes de télésurveillance, on discute avec différents partenaires du monde de la santé, justement pour que les spécialistes de la télésurveillance, les spécialistes de l'alerte puissent faire leur métier, mais en ayant des nouveaux yeux, des nouveaux objets qui sont chez les personnes, là où sont les personnes en ce moment, c'est-à-dire un peu confinées.
Alors, on le rappelait à l'instant, c'est vrai qu'en ce moment, on manque de tout, hein, de masques, on le disait, hein, de gel, certains hôpitaux manquent d'embouts auriculaires. Et du coup, là, votre production de thermomètres connectés, parce que vous faites également des thermomètres connectés, est très demandée par les hôpitaux.
Et vous tout en avez fait, donc là,
d'une partie.
On en fait une partie en don, et on a mis en place une adresse justement pour les professionnels de santé qui souhaitent nous contacter, soit pour la recherche, soit pour les dons de thermomètres. Donc c'est covid19@wheezing.com. Et du coup, c'est vrai qu'il a l'avantage d'être sans contact, et donc de ne pas avoir de consommables comme les embouts, parce qu'en fait, ce qui leur manque actuellement, c'est les embouts protection à usage unique dans les hôpitaux. Donc c'est quelque chose que nous, on n'a pas sur notre thermomètre.
Oui, c'est vrai que là, effectivement, c'est un thermomètre à distance. Et voilà. Donc, ça permet de réaliser des centaines de mesures facilement, de manière totalement hygiénique. Donc, on voit bien comment les entrepreneurs se défendent, hein, et comme ils peuvent, et les particuliers également. Je pense notamment aux dons, hein, de masques, là aussi, de votre côté, du côté de chez Wheezing.
Oui, on a nos partenaires industriels.
J'entends un petit peu moins bien.
Ah, pardon. Donc on a, en effet, on a donné des masques qu'on a pu récupérer de nos partenaires industriels, et donc c'est quelque chose pour lequel on n'est pas dans l'origine de l'entreprise des objets connectés de santé, mais voilà, on essaye de mobiliser toutes nos équipes, y compris nos équipes qui sont à Hong Kong et qui ont du coup un certain nombre d'échanges avec le milieu industriel local.
Alors, il faut le rappeler parce que, effectivement, la French Tech est également très mobilisée dans cette crise sanitaire. Hein, on le disait avec les objets connectés ou toutes sortes d'innovations grâce au numérique. Et il y a un vrai élan de solidarité.
Tout à fait. Nous, on a vraiment des partenariats qu'on a lancés avec énormément de start-up et de chercheurs. Et on essaie de partager au maximum l'information pour trouver des projets les plus opérationnels et les plus pertinents à court terme. Donc toutes nos équipes sont à fond, et aussi les partenaires des autres du monde de la French Tech ou les partenaires de recherche. Voilà, on participe ensemble et on met en place différentes initiatives, différents projets de recherche pour mieux comprendre la dynamique de cette épidémie, mieux comprendre son évolution. Et donc c'est vraiment un moment un peu historique où justement on met de côté tout ce qui est compétition et concurrence commerciale, et on est vraiment dans un espèce d'élan de solidarité. On travaille ensemble pour
avancer tous ensemble et essayer
au mieux, voilà, avancer au mieux sur tous les effets de cette épidémie.
Faire bloc face à ce coronavirus. Et donc la priorité pour Wheezing, c'est donc cette montre connectée pour qu'elle devienne vraiment un vrai relais, hein, pour les médecins, et notamment pour nous les particuliers, que l'on puisse être rassuré à distance et que l'on puisse finalement se contrôler avec des indicateurs bien précis.
Exactement. Donc c'est vrai que nous, on a une application gratuite, mais pour le moment, la montre, on va la concentrer dans un usage où justement il y aura un médecin à proximité, et puis la sortie grand public interviendra dans un second temps. Donc dans un premier temps, on essaie vraiment de soutenir au mieux le corps médical avec ce qu'on sait faire et nos connaissances.
Merci beaucoup Vincent Vercamer. Je rappelle que vous êtes chef de projet Innovation Santé chez Wizins. Merci à vous pour votre témoignage et bravo. Bravo à toutes ces entreprises solidaires. La France ne manque pas de talent, on aime bien le rappeler à Sud Radio et on a un plaisir à relayer toutes ces initiatives. On se retrouve dans quelques minutes, cette fois-ci en direct d'Albi.